la ministre de la Culture de la République fédérale d'Allemagne, Madame Christine Havels, et Monsieur Peter Müller, qui est le ministre président du Land de Sarre, qui d'ailleurs nous avait accueillis au début de l'année à Sarrebruck pour une conférence avec Madame Christine Havels et Jean-Jacques Ayagon sur la diversité culturelle. Et je sais que Peter Müller, vous l'entendrez tout à l'heure, est un ardent défenseur de cette diversité. Bien évidemment, nous avons notre ministre, M. Donnieu de Vabre, qui a été, ouais, vous avez vu, a suscité un accueil intense. Luc Bondy, metteur en scène de théâtre, qui nous fait l'amitié de venir d'Aix-en-Provence, où il vient de créer le spectacle d'ouverture, Hercule. Alain Garland, qui représente le Syndéa, qui s'occupe des affaires internationales et il est membre de la coalition pour la diversité culturelle, et notre ami Michel Vautrin, du syndicat français des artistes, qui est aussi membre du bureau de cette coalition. C'est d'ailleurs notre trésorier. Alors le débat que nous avons organisé aujourd'hui, c'est un débat sur l'Europe de la culture, parce que la coalition pour la diversité culturelle s'est créée il y a une dizaine d'années, au moment, et ça a été très médiatisé, où il y a eu des négociations très intenses sur la culture dans le cadre des négociations commerciales internationales. C'était ce qu'on appelait la défense de l'exception culturelle dans le cadre du GATS qui a été signé en 1994 à Marrakech. Ensuite, il y a eu des discussions sur l'accord multilatéral sur l'investissement. Et grâce à l'action de ce qui s'appelait à l'époque le comité de vigilance, devenu la coalition pour la diversité culturelle, nous avons pu faire retirer et arrêter cet accord multilatéral sur l'investissement qui menaçait les politiques culturelles. La coalition pour la diversité culturelle, une brève présentation, ça représente l'ensemble des organisations professionnelles du secteur du spectacle vivant, bien entendu, de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la musique, toutes catégories confondues, les employés, les salariés, les auteurs, les producteurs, les créateurs, les éditeurs. Donc je voudrais commencer ce débat en essayant de le centrer sur les problèmes du théâtre, parce que lorsqu'on parle de diversité culturelle, on parle d'abord de la problématique de l'industrie cinématographique, de l'industrie audiovisuelle. Vous savez d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore eu une décision de la Commission qui est extrêmement mauvaise, puisqu'elle a mis en cause la France, qui, pour protéger son cinéma, interdit la publicité pour le cinéma sur les antennes de télévision. Si la Commission avait malheureusement raison, eh bien, évidemment, ce sont les films américains qui bénéficieraient de cette ouverture de la publicité télévisée. Mais là, nous allons parler un peu de la problématique de l'Europe de la culture. Il va y avoir une nouvelle commission, il y a un nouveau Parlement européen, et il faut savoir si dans une Europe qui a créé le marché unique, qui a essayé de mettre en cause beaucoup des règles de protection culturelle, il y a une possibilité pour construire une nouvelle Europe qui permettrait aux créateurs d'exister et à la création de circuler sur l'ensemble des pays de notre continent. Je sais que Renaud de Dieu-Vabre a fait une tribune, a proposé un pacte pour la culture, tribune qui a été publiée cet après-midi dans Le Monde. Mais je vais d'abord donner la parole à Madame Christine Havels, qui nous fera part de sa conception de l'Europe de la culture, sachant que sur ces questions-là, j'ai senti depuis quelques années un rapprochement très très fort entre la France et l'Allemagne.
Merci, mais je vais parler d'abord sur le théâtre. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ich bin heute hier in Avignon, in dem berühmtesten Theaterfestival Frankreichs. Und heute wird auf der Bühne hier in Avignon, wie des Öfteren in den nächsten Wochen, Deutsch gesprochen. Und weil auf der Bühne Deutsch gesprochen wird, werde ich jetzt mein kleines Statement zu Beginn auf Französisch machen. Mesdames et messieurs, je souhaite en premier lieu vous remercier de m'avoir invité à participer au débat sur l'Europe de la culture. J'ai relu dernièrement un article aussi ancien qu'actuel de Roland Barthes. Cet article illustre à mes yeux parfaitement les relations entre la France et l'Allemagne. Il y parle de Bertolt Brecht, mais aussi de nous. Je me suis donc permis de le retraduire vers le français de manière libre, vous le comprendrez, je l'espère. Bertolt Brecht a achevé une synthèse authentique entre la cohérence d'un dessin politique et l'absolue liberté du dramaturge. Son théâtre est à la fois moraliste et bouleversant. Il amène le spectateur à élargir sa conscience de l'histoire sans que ce genre changement ne prenne sa source dans un don de persuasion rhétorique ou bien encore dans une intimidation divinatoire. La victoire revient à l'acte théâtral seul. En cela, le théâtre est justifié sur le plan civique en tant qu'institution de la cité. Ne pleurons-nous pas assez la perte de cette unité de théâtre et de ces cités? À présent, ce théâtre se tient devant nous à portée de main. Arrêtons de faire l'éloge déchu ou de Shakespeare et occupons-nous plus de Brecht. Il y a exactement 50 ans, le 8 juillet 1954, que Roland Barthes a écrit cet article dans France Observateur. Le sujet en était la représentation en tournée de Mère Courage du Berliner Ensemble. Ce texte, intitulé Théâtre Capital, nous entraîne au sein du champ d'action des relations culturelles franco-allemandes et nous définit la place qui revient au théâtre. Il s'agissait pour Brecht tout comme pour Barthes de faire renaître le théâtre en tant qu'art porteur d'un message social. En partant de ce principe, on peut également résumer le concept du théâtre que, depuis des années, Thomas Ostermeyer met en pratique avec succès. En ce sens, j'estime juste la décision d'Hortense Archambault et de Vincent Baudrier, directeur de cette manifestation culturelle, qui l'ont élu artiste associé au sein de ce conseil d'artistes du Festival 2014. En effet, Ostermeyer se concentre avec un groupe d'auteurs contemporains, d'acteurs et de metteurs en scène sur une seule et même visée, faire du théâtre moderne pour notre raison. Le manifeste paru autrefois et rédigé par la toute nouvelle direction de la Schaubühne en 2000, composé de Thomas Ostermeyer et de la chorégraphe Sacha Walz, ainsi que des dramaturges Jens Hilje et Jochen Sandig, déclarés avoir pour mission, en dehors d'un renouveau esthétique, la répolitisation de l'art, aussi bien que du spectateur. Ils se demandaient, de quelle manière devrions-nous vivre? Une question qui animait Brecht, et que nous devons nous poser en permanence si nous ne voulons pas, comme le disait Friedrich Schiller dans Carlos, nous contenter avant la mort d'un calme cimetière. Mesdames, Messieurs, le théâtre allemand donne aux artistes que, par son dense réseau des théâtres nationaux et municipaux encouragés par le secteur public, une grande liberté d'expression. Ils peuvent travailler de manière homogène au point de vue conceptuel ou bien encore proposer une forme délibérément variée. Ils ne sont pas obligés de nous livrer des productions à succès commercial et ils gardent une certaine assurance face aux exigences économiques et à la critique dans les médias. Sur les planches de la Schaubühne, Thomas Ostermeier et ses proches collaborateurs posent les fondements d'une programmatique et d'un sens de l'esthétique propre qui s'efforce de souligner de manière radicale le sens du contemporain. Nous allons découvrir ici leur travail sur Georg Büchner. Georg Büchner, le social-révolutionnaire le plus poétique que l'Europe ait jamais engendré. Georg Büchner, qui a non seulement étudié de manière intense l'histoire de la Révolution française, mais qui dut en outre partir en exil à Strasbourg parce qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt en Allemagne à cause de sa participation à des crimes de haute trahison envers l'État. Permettons-nous d'interpréter librement cet acte et considérons à présent cette fuite vers un voisin libéral tout simplement comme le début très prometteur d'un échange d'artistes entre nos deux pays. Et en même temps, comme le commencement d'une communication, d'une formation d'opinion et bien sûr aussi d'un transfert de culture allant au-delà des frontières. Projeté dans le présent, cela signifierait que plus l'Europe est soudée économiquement et politiquement, plus il est important de préserver aussi une homogénéité culturelle. Nous n'avons pas le droit de nous satisfaire de cultiver un héritage européen dont l'image serait rendue seulement par le biais des musées ou de l'histoire. Nous devons vivre le futur. Le programme de cette année du festival nous promet un bon début et moi, je vous en remercie.
Merci, Madame Weiss. Je vais donner la parole maintenant à M. Hubert Müller.
Merci beaucoup. D'abord, je m'excuse si je parle en allemand, mais ma relation à la langue française, c'est comme ma relation à ma femme. Je l'aime, mais je ne la domine pas. Entschuldigung, Nachsicht. Wenn ich zunächst einmal meiner Freude darüber Ausdruck verleihe, heute hier in Avignon sein zu können und damit ein Versprechen einzulösen, das ich Renaud Dieu de Fabre gegeben habe. Wir haben vor wenigen Wochen gemeinsam in Saarbrücken eine Ausstellung der zeitgenössischen bildenden Kunst mit deutschen und französischen Künstlern eröffnet. Und ich glaube, dass diese Begegnung zeitgenössischer deutscher und französischer Kunst auf der Ebene der bildenden Kunst hier eine Fortsetzung auf der Ebene des zeitgenössischen Theaters erfährt. Und wenn wir über kulturelle Vielfalt, wenn wir über das Europa der Kulturen sprechen, dann muss ein Teil dieses Europas der Kulturen eben auch der intensive Austausch des künstlerischen Schaffens zwischen den europäischen Nationen und insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich sein.
Alors, une fois de plus, je vous prie de m'excuser de ne plus tenir en allemand. Tout d'abord, pour vous dire que je suis très content de pouvoir réaliser et remplir ma promesse de me rendre à Avignon. Promesse faite lors de l'ouverture d'une exposition avec Renaud Dieu de Fabre concernant des artistes français et allemands dans le domaine de l'art contemporain, mais les arts plastiques en particulier. Aujourd'hui, nous avons la continuation de cet échange au niveau du théâtre contemporain. Et lorsque l'on parle de l'Europe des cultures, je crois qu'il faut tout d'abord et surtout procéder à un échange des cultures des différents peuples de l'Europe.
Ich glaube, dass bei der Debatte die kulturelle Vielfalt im Kern zwei Fragen zu beantworten sind. Die erste Frage heißt, brauchen wir überhaupt kulturelle Vielfalt in einer Zeit der Globalisierung? Und die zweite Frage ist, auf welchem Wege kann kulturelle Vielfalt herbeigeführt, sichergestellt werden? Was die erste Frage anbetrifft, so glaube ich, dass gerade in einer Zeit der Globalisierung die kulturelle Vielfalt und die kulturelle Identität an Bedeutung gewonnen hat. Kulturelle Identität ist ein entscheidendes Stück Heimat in einer Zeit, in der diese Heimat, in der diese Selbstfindung immer wichtiger wird. Der Hinweis darauf, dass in dieser Welt viele Dinge nur noch grenzüberschreitend, nur noch im globalen Zusammenhang stattfinden, ist ein Hinweis darauf, gerade die eigene Identität auch durch Rückbindung an die eigenen Wurzeln, an die eigenen Traditionen, an die eigenen Zukunftsgedanken herbeizuführen. Und in dem Zusammenhang spielt die Kultur eine unverzichtbare, vielleicht die zentrale Rolle. Deshalb ist meine Antwort, gerade auch unter dem Druck der Globalisierung, ist kulturelle Vielfalt absolut unverzichtbar.
Bien, lorsque l'on parle du sujet de la diversité culturelle, il y a deux questions qui voient le jour à mes yeux. Tout d'abord, avons-nous besoin de cette diversité culturelle dans un temps de période de mondialisation, et comment y parvenir, comment réaliser cette diversité? Parce que la première question, je crois que justement, dans ces temps de la mondialisation, il est d'autant plus important de faire ressortir l'identité culturelle des différents peuples, de se faire ressentir un petit peu plus chez soi dans un monde qui est devenu de beaucoup plus transfrontalier, beaucoup plus anonyme. Et là, avoir un retour vers sa propre identité correspond à retourner à ses propres sources et à ses racines, et à donner une image plus concrète au présent individuel et de son peuple, ainsi qu'à l'avenir aussi. Et dans cette perspective-là, je crois que la culture et la diversité culturelle, justement, jouent un rôle essentiel.
Zweite Frage, wie sichert ihr kulturelle Vielfalt? Ich glaube, da gibt es eine große Übereinstimmung zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, dass natürlich kulturelle Dienstleistungen auch die Qualität eines Wirtschaftsgutes haben, aber eben nicht nur die Qualität eines Wirtschaftsgutes haben. Und deshalb müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Organisation der kulturellen Vielfalt nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, nach Gesichtspunkten der Freizügigkeit, nach Gesichtspunkten der Dienstleistungsfreiheit stattfindet. Diese Debatte muss offensiv geführt werden. Sie muss in Europa offensiv geführt werden, weil nach meinem Dafürhalten auch gerade in der Europäischen Kommission es Bestrebungen gibt, die kulturelle Vielfalt allzu sehr unter dem Gesichtspunkt der Dienstleistungsfreiheit zu sehen. Das wird der Eigenart, das wird dem Charakter kultureller Vielfalt nicht gerecht. Und die zweite Ebene ist natürlich die internationale Ebene. Insbesondere von Seiten der Vereinigten Staaten erleben wir ja, dass Versuche gemacht werden, auch in diesem Bereich ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorzugehen. Natürlich dürfen bei der Diskussion um Kultur wirtschaftliche Gesichtspunkte nicht außen vor bleiben. Wer aber Kultur und kulturelle Vielfalt nur wirtschaftlich diskutiert, der verrät am Ende die Kultur, und deshalb dürfen wir das gemeinsam nicht zulassen.
Pour ce qui est la deuxième question, comment y parvenir, comment assurer l'avenir pour la diversité culturelle? Et je crois qu'il y a justement une correspondance entre l'Allemagne et la France. Il y a les services culturels à rendre qui ont évidemment aussi une qualité de bien économique, mais pas seulement. Il faudra donc veiller à ce qu'il n'y ait pas seulement des aspects de libre circulation ou de libre prestation de services qui soient retenus. Il faut vraiment veiller aux différents niveaux à ce qu'il y ait ce supplément de la diversité culturelle et de son importance. Au niveau européen tout d'abord, il me semble que la Commission européenne tente un petit peu trop de faire valoir l'aspect du service culturel, de la libre circulation de ces services, pour laisser de côté un petit peu les autres aspects, au moins aussi importants, de la diversité culturelle. Et alors au niveau international aussi, nous avons les États-Unis qui tentent quand même de faire valoir uniquement cet aspect économique. Et il faudra vraiment faire attention à ce que l'on n'arrive pas là, parce que ce serait vraiment commettre un acte de trahison par rapport à l'importance de la culture dans notre monde.
Merci. Je tiens à remercier Peter Müller pour sa déclaration, parce que je crois que l'ensemble des professionnels français, d'ailleurs l'ensemble de la classe politique française en général, pourrait y souscrire, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, et on l'a encore vu ce matin avec ce que je disais en ouverture sur la publicité pour le cinéma et la télévision, que l'Europe n'a pas de repère, n'a pas de guide autre que le marché dans certains cas, et que pour préserver la diversité culturelle, ben, il faut maintenir cette capacité qu'ont les différents pays à déterminer librement leur politique, et c'est ça qui peut être mis en cause dans ces négociations commerciales internationales qui sont d'ailleurs en cours, puisque nous sommes dans un cycle de négociations que l'on appelle le cycle de Doha. Je vais donner la parole maintenant peut-être à Michel Vautrin qui nous fera part d'un certain nombre de problèmes aussi concrets qui se posent aux artistes-interprètes et aux créateurs dans le cadre de cette Europe qui n'existe pas encore vraiment pour la culture.
Oui, oui, je pense qu'on peut dire qu'elle n'existe pas vraiment malgré de belles déclarations. Et pour l'heure, je crois que force est de devoir constater que, malgré les discours incantatoires de certains, l'Union européenne a toujours de fait une capacité très limitée dans le domaine culturel. Le traité de Maastricht en 92 ne lui a reconnu qu'un domaine d'action des plus complémentaires, et le projet actuel de constitution de l'Union se cantonne à ne reprendre à la lettre que les timides avancées du traité instituant la communauté européenne. Contribution à l'épanouissement des cultures des États membres, encourager les coopérations entre les États. On relèvera toutefois tout de même l'action déclarée de l'Union pour appuyer et compléter l'action dans certains domaines comme la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel, certes en précisant qu'il s'agit de ceux d'importance européenne, et la création artistique et littéraire, on la trouve tout de même, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. Pour ce qui est de la diversité culturelle, elle est abordée, quant à elle, de façon très diplomatique, où chacun donc pourra éprouver ce qu'il veut. Pour mémoire, je lis la référence. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la Constitution, afin notamment de respecter et promouvoir la diversité de ses cultures. Avec ça, je crois qu'effectivement, on peut faire à peu près ce que l'on veut. Doit-on alors parler d'un véritable projet cohérent, correspondant à l'engagement des États membres pour élever la diversité culturelle au rang des objectifs de l'Union, comme semble se prêter à croire notre ministre de la Culture, quoique à la lecture de sa tribune de cet après-midi, je finis par penser qu'il y en doute lui aussi très sincèrement. Alors, je dirais que, pourtant, des acquis communautaires, souvent d'ailleurs par trop méconnus, ne doivent pas être négligés. Programme européen comme Médias et Culture 2000, projets culturels financés via des fonds structurels, réglementation concernant la politique audiovisuelle, législation sur le droit d'auteur et les droits voisins. Mais là encore, cette énumération de dispositifs techniques fait-elle une politique culturelle? Alors nous sommes en Avignon, parlons de spectacle vivant. Et comme le sujet était de parler des financements de la politique culturelle, je n'en ai retenu que quelques aspects. Un rapport du Parlement européen de juillet 2002 traite de l'importance et du dynamisme du théâtre et des arts du spectacle dans l'Europe élargie. Alors bien évidemment, d'une façon totalement arbitraire, je n'ai retenu que quelques aspects de ce rapport, mais je pense qu'ils sont éclairants. On peut y lire que le dynamisme du théâtre ne devrait pas dépendre essentiellement de subventions publiques et que les États ainsi que les collectivités territoriales doivent jouer un rôle prépondérant dans le soutien à la création et l'accompagnement de la circulation des artistes et des œuvres, notamment en stimulant la diversification des sources de financement. Le rapport d'ajouter que le mécénat, le sponsoring, jouent un rôle important pour la création et les manifestations artistiques et qu'il convient de les encourager et de les développer. Le public, quant à lui, n'est pas oublié dans la réflexion du Parlement, puisque on peut y lire, il considère que la réhabilitation du théâtre dans le public peut agir sur la loi de l'offre et de la demande, en augmentant cette dernière et en faisant du public une ressource, une source de revenus plus importante. Mais dans le rapport, nulle part il n'est fait mention, voire même évoqué, une quelconque relation entre financement et responsabilité publique au regard de ce qu'il conviendrait pourtant d'aborder en termes de mission de service public. Nulle part il est question d'engager un débat parlementaire européen pour une loi d'orientation pour la culture, par exemple. Enfin, permettez aux syndicalistes que je suis de relever plus particulièrement certaines préconisations de ce rapport. Elles concernent la mobilité des artistes et des professionnels du spectacle. Le rapport demande à la Commission de réfléchir à une coordination des législations sociales et fiscales applicables aux artistes et professionnels du spectacle. il exhorte les États membres de la Commission à éliminer toute discrimination fiscale à l'égard des artistes et professionnels non nationaux et à établir des mesures encourageant la mobilité des artistes et des travailleurs du spectacle. Eh bien, la Commission européenne semble avoir parfaitement entendu cet appel, à en croire le projet de directive sur les services paru au début de cette année et qui, faut-il le préciser, s'appliquerait à tous les services, y compris tous ceux du champ des activités culturelles. Certes, l'audiovisuel est particulièrement visé, mais nous savons que cela peut avoir comme conséquence dans le spectacle vivant. L'objectif de cette proposition est d'établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services et à la libre circulation des services entre les États membres, selon un principe nouveau concept de la notion de pays d'origine. Un prestataire de service serait donc soumis exclusivement à la loi du pays où il s'établit et non à la loi du pays où il fournit le service. On se trouve là en présence d'une incitation légale à délocaliser vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus basses, avec pour conséquence que ce phénomène devenant une règle européenne provoquera une pression sur les pays dont les standards actuels protègent davantage l'intérêt général. Ne nous trompons pas, ce projet aurait des conséquences négatives dans tous les pays, y compris parmi les nouveaux entrants. Et il serait pour le moins paradoxal de voir le ministre de la Culture français, par exemple, chercher des dispositifs pour lutter contre les délocalisations, alors même que le dispositif social, lui, les renforcerait. Pour faire bon poids et bonne mesure, la Commission européenne a décidé de traduire la France devant la Cour de justice européenne en raison des restrictions pesant, selon elle, sur les agences de placement des artistes et sur les artistes indépendants désireux d'exercer leur activité en France. Il s'agit là tout simplement de la remise en cause de la présomption de salariat des artistes-interprètes, présomption inscrite dans le Code du travail depuis un soir de décembre 1969. Cette présomption de salariat, c'est la pierre de voûte de tout le dispositif social et conventionnel sur lequel repose l'emploi, que ce soit dans le spectacle vivant ou dans l'audiovisuel. Alors certes, le gouvernement français a annoncé sa ferme détermination à défendre le dispositif législatif et réglementaire en vigueur. Mais cela fait beaucoup de questions, alors que nous sommes encore aujourd'hui au cœur d'une actualité toujours brûlante, celle du devenir des emplois relevant de l'intermittence du spectacle, celle du devenir de ceux qui font vivre cette diversité culturelle. Alors, exception ou exclusion? De quelle Europe avons-nous besoin? Pour quelle politique culturelle? Avec quels artistes? Voici quelques jours, Monsieur Donnedieu de Vabre, vous participiez à une conférence sur la diversité culturelle avec les ministres du commerce extérieur des 10 nouveaux États membres de l'Europe. Permettez-moi de vous rappeler les propos que le commissaire européen en charge des négociations sur le commerce extérieur, M. Pascal Lamy, encore en poste voici quelques semaines, tenait. Il déclarait « Si nous voulons améliorer notre propre accès au marché étranger, alors nous ne pouvons pas mettre à l'abri nos secteurs protégés. Pour les États-Unis comme pour l'Union européenne, cela veut dire quelques douleurs dans quelques secteurs, mais des gains dans beaucoup d'autres. Et je crois, disait-il, que nous savons de part et d'autre qu'il faudra consentir des sacrifices pour obtenir par ailleurs ce que nous voulons. » Certes, cette déclaration de fin 2000 est antérieure aux propos du chef de l'État qui s'est engagé devant l'UNESCO à réclamer la création d'une convention internationale pour la diversité culturelle. Mais comment doit-on interpréter votre conclusion, Monsieur le Ministre, à l'occasion de cette conférence le 2 juillet dernier, quand vous déclariez « Je défends la diversité au nom de la liberté des échanges et d'une politique de concurrence bien comprise. » Quand nous parlons d'exception et de diversité culturelle, parlons-nous vraiment de la même chose?
À laquelle le ministre répondra à la fin, quand il aura la parole. Je voulais d'abord accueillir Pippo Del Bono, qui nous fait l'amitié de venir bien nous rejoindre. La parole à Alain Garland pour un peu la thématique spectacle vivant aussi dans le cadre de cette construction européenne. Un mot quand même sur le commissaire Lamy. parce que moi je l'adore ce commissaire. Il a encore essayé il y a quelques jours, alors qu'on était à la fin du processus de conclusion de la Constitution européenne, d'affaiblir la portée de la clause de protection de la diversité culturelle qui a été incluse à la demande de la France, à la demande de l'Allemagne, dans cette Constitution. Donc c'est un acharné, mais pas pour notre cause. Voilà, à vous Alain.
Oui, les gens du spectacle vivant, les organisations d'employeurs en tout cas, ont tardé à rejoindre la coalition culturelle parce que nous considérions que, ne faisant pas partie des industries, puisque notre métier est purement artisanal, nous n'étions pas forcément concernés, nous avions tort, puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement, dans le cadre de la construction européenne et dans le cadre des échanges internationaux, le spectacle vivant est considéré comme une activité de service commerciale et qu'elle doit rentrer dans l'ensemble du dispositif international. Donc, les employeurs du spectacle vivant siègent à la coalition culturelle pour la diversité culturelle, mais aussi au sein d'organisations internationales comme BIRL, qui regroupe l'ensemble des syndicats d'employeurs européens, et qui est présidé par le président de la Bundesunionverein, qui est allemand. Donc nous sommes déjà au niveau des employeurs européens dans une diversité culturelle. Bon, ceci est anecdotique, mais c'est pour dire simplement que la diversité culturelle est quelque chose qui est fondamental de l'Europe. Il n'y a pas une culture européenne, même si on peut faire remonter l'invention du théâtre à la Grèce antique et que chacun se revendique de cette culture-là, elle s'est ensuite déclinée dans chaque pays différemment, dans les langues, mais aussi dans les organisations, et les questions d'harmonisation, de coordination des politiques doivent être faites avec beaucoup de prudence, parce que la diversité, c'est aussi dans les modes d'organisation et de construction et de production des œuvres. Donc, nous ne devons pas nous battre pour une culture européenne, mais pour la diversité des cultures européennes. Et c'est dans l'addition de ces choses différentes que nous pourrons continuer à parler d'une Europe de la culture, puisque ce sera une Europe des cultures. Je crois que c'est important parce que ça implique aussi que les dispositifs qui ont été mis en place et qui sont fondamentaux, sont les dispositifs de financement de la culture dans tous les pays d'Europe, sont directement ou indirectement à la source et à permettre l'expression des diverses familles artistiques, que ce soit le théâtre, la danse, la musique. Sans financement public, il n'y aurait plus de culture au sens de la création artistique en tout cas. Il ne subsisterait qu'une culture de l'offre, de la demande commerciale, qui bien sûr serait assez loin des préoccupations d'un festival comme celui d'Avignon. Donc diversité aussi des modes opératoires, mais je crois que au-delà de ça, il reste à construire, c'est un dispositif européen de soutien à la culture qui pour l'instant est tout à fait microscopique. Puisque les développements existants permettent assez peu de choses et sont très peu adaptés au spectacle vivant en tout cas. C'est un peu moins vrai pour l'audiovisuel, encore qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais en tout cas, pour le spectacle vivant, les dispositifs qui ont été mis en place par le Parlement, qui sont vraiment petits, ou par la Commission, qui sont un peu plus importants, ne sont pas du tout adaptés dans leur forme, dans leur construction intellectuelle au spectacle vivant. Donc au-delà de simplement acheter des fonds qui seraient nécessaires pour la circulation des œuvres des artistes, parce que même si on doit, comme l'a dit mon camarade de la CGT, être prudent sur la façon dont les artistes doivent circuler, il faut que la circulation des œuvres des artistes soit amplifiée, parce que c'est sur le travail commun qu'on peut arriver à s'entendre et à avancer ensemble. Donc, s'il doit y avoir une Europe de la culture qui se construit, c'est aussi avec des moyens, dans la préservation de ce qui existe, et dans l'invention d'une politique culturelle européenne autour de ces deux idées de la circulation des hommes et des œuvres.
Merci. Vous avez eu raison d'insister sur un point, c'est le problème du budget qui est dédié au sein de l'Union européenne à la culture, parce que ce budget est minuscule. Alors, il y a Jacques Ravine qui est dans la salle, alors lui, il connaît parfaitement les chiffres. Hein. Bon, je crois que c'est moins que le tabac, enfin bon, que ce qu'on donne au tabac. Bon. Et il y a quand même un risque, c'est qu'on va avoir une Europe à 25, alors qu'on avait une Europe à 15, et qu'on ait toujours les mêmes budgets pour avoir pour 25 que ce qu'on avait pour 15. Et il y a une tentation extrêmement forte au sein de la Commission européenne et ensuite du Conseil des ministres de ne pas augmenter, voire de réduire les sommes qui sont allouées aux différents programmes culturels. Et vous avez raison de dire que si du côté du cinéma, de l'audiovisuel, il y a déjà des programmes qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, du côté du spectacle vivant, il y a encore beaucoup de choses à inventer. Bon, je vais donner la parole maintenant à Luc Bondy qui nous dira un peu son expérience d'artiste et s'il y a des choses à dire sur cette construction européenne, sur cette politique qu'il faut faire pour avoir plus de diversité culturelle en Europe.
Merci, parce que je dois vous dire que je suis je viens d'une culture où j'ai fait ma, comment on appelle ça, carrière dans une culture qui est la culture allemande et dans laquelle toutes les questions se sont posées différemment, puisqu'en Allemagne, dans chaque théâtre où j'ai commencé, dans chaque ville, il y avait des théâtres subventionnés. Le problème du financement de la culture ne s'est pas posé en Allemagne d'une façon comme elle se pose à mon époque, je dois vous dire. J'ai quand même, vous savez, à l'époque où j'ai commencé, c'est-à-dire, moi j'ai commencé en Allemagne dans les années 72-75, et là c'était parfait. Non ? Et en France, c'était jamais parfait. Et là, mon expérience a toujours été, j'ai mal à parler de la diversité européenne. Pour moi, c'était difficile. D'abord, je suis suisse. Pas que je ne suis pas européen, je travaille en Europe, partout, et j'ai beaucoup mal à parler sur ce thème. Je peux seulement dire que quand on a commencé en Allemagne et qu'on a travaillé à l'intérieur de la. Au théâtre allemand, naturellement, c'était très frappant en France. L'expérience en France est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus rude que la vie de théâtre en France, que la vie des hommes de théâtre en France. La culture théâtrale française est quasiment nulle, je dois dire, à côté de la culture allemande, parce qu'en France, les gens doivent se battre comme des fous pour obtenir du fric, pour faire quelque chose. Alors qu'en Allemagne, il ne faut pas se battre comme ça. Donc déjà, il y a à l'intérieur de l'Europe, entre la France et l'Allemagne, une telle différence que je ne vois pas comment on peut parler de diversité. Et déjà, quand on parle d'Italie, je pense que c'est déjà une telle différence entre l'Allemagne, l'Italie, la France, c'est partout tellement différent. Maintenant, je viens de travailler en Angleterre. En Angleterre, les acteurs gagnent rien du tout, moins que rien. Et quand quand le théâtre est fait dans un petit coin, c'est très difficile de faire venir les gens. Les acteurs sont... Mais il y a une autre mentalité. L'Angleterre est beaucoup plus, je dirais, plus stoïque là-dedans. Ils font ça comme ça. C'est différent. Ils ont commencé ailleurs, ils ont une autre culture. Et ils ont moins la séparation en France. Il y a entre la haute culture, la culture plus triviale. L'Angleterre ne fait pas les mêmes séparations qu'en France. La France est un pays où il y a la haute culture tout en haut, où il y a plus de la culture populaire, puis c'est beaucoup plus séparé les choses. Donc c'est très difficile d'avoir un avis complet sur tout, parce que chaque pays a toute une autre tradition. L'Allemagne a une autre tradition déjà depuis le 17e siècle, la tradition justement. Le rapport de la ville. Le rapport de la ville à la culture, je la sens pas toujours, mais plus responsable, plus involvée. En Autriche, qu'est-ce que je veux vous dire, parce que je dirige le festival de Vienne, la ville de Vienne socialiste est extrêmement intéressée à la culture parce que c'est une des moyens de faire venir les touristes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais aussi parce que il y a aussi depuis très longtemps une tradition culturelle. Et qu'on pense qu'une ville sans culture et un lieu sans culture et sans possibilité est un lieu mort. Donc il y a mais on est aussi menacé, par exemple on a la situation que quand on est dans la ville, on se fait enlever l'argent par l'État, nous au festival on se fait enlever l'argent par l'État pour des désaccords politiques. Là, clairement, l'État a montré ce qu'il pensait de moi en retirant le fric, et donc d'autres gens, des banques sont venues pour investir. C'est tellement différent que je peux dire comme ça. Je pense aussi que quand on est metteur en scène, de faire une certaine généralité sur l'Europe, c'est absolument possible.
Bon, je ne sais pas si vous voulez réagir, mais vous ne facilitez pas la tâche des politiques. Pippo Del Bono, alors en Italie, c'est facile ou difficile?
Ils m'ont dit que l'autre jour, le ministère m'a dit que l'argent qui va pour le théâtre doit retourner en 10 ans plus les intérêts. Non? Et ben, là, c'est pas un peu dur, parce que alors, ça signifie que pratiquement, nous devions totalement dans l'entreprise. Non? La culture, ils deviennent en façon de faire le marché. Moi, je pense que l'Italie représente le moment du cul du monde, du fond, je pense. Parce que là, toutes les choses qui sont dans des autres pays possibles, ils sont devenues réelles. Mais ce n'est pas seulement parce que c'est trop facile, je pense, de dire qu'il y a Berlusconi, avant c'était mieux. Non. Il y a une maladie totale, je pense, que le théâtre s'est devenu totalement bourgeois. Le théâtre n'appartient plus à l'argent. Le théâtre s'est devenu des grands théâtres, tu vas là, tu sens une odeur vraiment de bourgeoise. Je commençais à faire du théâtre dans la rue. J'ai commencé à faire du théâtre parce que pour moi la culture c'est une expression de liberté, de révolution. La culture venait pour ouvrir la tête. Et maintenant je sens que la culture est devenue plus pour fermer, plus fermer, plus fermer. Alors je me demande, qu'est-ce que c'est la culture? Par exemple, aujourd'hui j'ai pensé, qu'est-ce que c'est la culture? Si je vais au Louvre, par exemple, c'est les limites. Je vais au Louvre, je passe une journée entière au Louvre, je sors tout le temps, j'ai mal à la jambe, j'ai mal au pied, je tends, oh maman mia, il manque encore 3 salles. Alors je sors au Louvre, il est passé quelque chose dans ma vie. Peut-être que non. Alors je pense que la culture s'est devenue trop comme le Louvre. Alors, parfois c'est mieux que tu regardes seulement une big design et là tu dois sortir de regarder une chose qui peut changer. Alors maintenant je sens que la culture, je parle surtout dans l'Italie, c'est une culture de pouvoir. C'est totalement ça. C'est l'organisateur qui va décider qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est mal. Il existe des politiques qui vont avoir un spectacle. Oui, oui, mais tu sens qu'ils sont totalement dans la tête 1000 km. Alors tu dis, mais il manque la vérité, il manque la nécessité, il manque. Là, je sens qu'il y a de la maladie. Non? Il y a plein de politiques qui viennent avoir le spectacle. Oh, c'est magnifique, mais peut regarder Pippo Del Bono, peut regarder un mur, il peut regarder que c'est la même, que la tête, c'est là. Alors tu te demandes, mais la culture nous dépend de ces personnes-là. Alors là, c'est mon question que je me demande. Il manque la sensibilité, la poésie dans la personne qui geste, non? Alors c'est devenu une chose qui est là. Il est là.
De prendre la parole, d'intervenir et de répondre aux questions, aux interrogations.
Je vais réagir tout d'abord pour dire à Christina et à Peter à quel point je suis heureux de les accueillir aujourd'hui, parce que je crois que c'est un moment symbolique très fort que ce spectacle dans la cour d'honneur, ce soit un spectacle réalisé, conçu par l'Allemagne, en langue allemande. Je crois que c'est l'esprit européen que les uns et les autres nous cherchons à promouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas l'uniformité, mais que chacun découvre l'autre.
ça veut dire que chacun comprenne les racines, l'identité, ce qui est la fierté, ce qui est la création, ce qui sont les objectifs du voisin. Non pas que nous soyons différents, mais que nous cherchions tout simplement à mieux comprendre d'où nous venons. Je crois que pour moi, si on me demande d'un mot de résumer ce que signifie l'Europe, c'est une valeur politique essentielle, c'est-à-dire le respect du pluralisme. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, ce respect du pluralisme, il est évidemment essentiel en matière culturelle, mais au-delà de la culture est dans la situation internationale actuelle, avec cette obligation de respect de la diversité, un élément essentiel. Alors, ce n'est pas gagné d'avance, parce que le risque aujourd'hui, à travers les échanges tous azimuts, c'est la disparition des identités, la disparition de ce qui fait que chacun, nous avons le respect de notre langue, de nos auteurs, de nos créateurs, de notre vision de l'avenir qui peut être différente d'un pays à un autre. Et il faut obtenir que les plus européens d'entre nous fassent en sorte que la Commission européenne, qui est censée être le moteur de l'Europe, respecte cette nécessité de la diversité. Et la diversité, pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit soutenue. Ça veut dire qu'il faut que les États et les collectivités territoriales, nous continuions à avoir le droit de soutenir dans chacun de nos pays nos productions, nos créateurs, nos racines, celles et ceux qui animent et qui font vivre la culture. Et ça, c'est absolument essentiel. Ça veut dire qu'il ne faut pas d'aucune manière que la culture devienne un échange économique banal, un marché, mais que nous sachions défendre pied à pied ses spécificités nationales. La Commission européenne vient d'envoyer à la France aujourd'hui un avertissement dans le domaine du cinéma et dans le domaine de l'édition. Je vous annonce que nous allons, bien évidemment, entamer des procédures juridiques pour récuser ce qui nous est demandé. J'ai eu l'occasion d'en discuter il y a quelques semaines avec le commissaire européen chargé du marché intérieur et je lui ai dit de la manière la plus directe que cette diversité culturelle que la France soutient, cette exception culturelle qui nous faisait parfois apparaître comme des gens arrogants, comme des gens ayant comme ça une sorte de complexe de supériorité, aujourd'hui, ce principe, il était soutenu par beaucoup de pays de l'Union européenne et par un certain nombre de mes collègues de l'Union européenne. Parce que nous devons avoir cet objectif concret et faire échapper la création culturelle aux lois du marché, à la banalisation et au système purement économique et financier. Et là-dessus, il y a une bataille à mener, mais je crois que nous pouvons la réussir. Le deuxième point qui me semble très important, c'est l'ouverture à l'autre. C'est ce que les uns et les autres vous avez dit. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un parcours européen des œuvres et de la création. Et ce parcours européen, ce n'est pas forcément une coproduction. C'est très bien qu'il y ait parfois des coproductions d'un théâtre avec un autre, d'une chaîne de télévision avec une autre chaîne de télévision, d'un producteur de cinéma avec un autre producteur de cinéma. Mais le plus important, c'est de faire en sorte qu'une œuvre nationale puisse avoir un parcours européen, c'est-à-dire qu'elle puisse ensuite être découverte par un certain nombre d'autres Européens, avec tous les problèmes que ça peut parfois poser en matière de traduction, en matière de langue, en matière de formatage lorsqu'il s'agit de production audiovisuelle. Mais ce parcours européen, il est très important. Et il commence dès la formation. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte, bien que cette mobilité des étudiants qui peut exister dans un certain nombre de disciplines scientifiques, économiques ou juridiques, qu'elle puisse également exister dans la formation des artistes et des techniciens pour que cet échange se fonde sur la réalité. Je crois qu'il y a un deuxième aspect très important, ce sont les moyens que nous devons mettre en œuvre au-delà des moyens nationaux. Et je crois que les uns avec les autres, nous devons faire en sorte que dans le budget européen qui va être élaboré par les nouvelles institutions européennes, par le nouveau Parlement européen, par la nouvelle Commission, par le nouveau Conseil des ministres, eh bien que la part de la culture soit plus importante. Pourquoi ? Parce que si nous voulons obtenir effectivement un parcours des œuvres, la découverte des uns des autres, il faut qu'il y ait des moyens renforcés. C'est en tout cas une demande que j'ai faite l'autre jour à la réunion du Conseil des ministres de la Culture de l'Union européenne. Nous avons déposé sur toutes ces questions, et je ne vais pas rentrer dans le détail, une sorte de mémorandum, c'est-à-dire au fond un pacte européen pour la culture. Ce pacte pour nous, c'est redéfinir qui fait quoi, qui a le droit de dire quoi à autrui. Et pour moi, la Commission européenne ne doit pas exercer une sorte de préemption de la culture comme si c'était une marchandise. Alors je voudrais rassurer certains de mes interlocuteurs, dire à Luc Bondy que si jamais on lui coupe les vivres à Vienne, il est le bienvenu en France et je prends l'engagement devant lui que dans mon pays, en tout cas, l'État ne coupe jamais les vivres pour des raisons politiques. Et donc, culturel de prendre une décision fondée sur des raisons politiques.
Monsieur
la deuxième chose qui me semble très importante, et comme vous avez dit sur la haute culture, c'est un concept que je récuse. Je crois que nous avons essayé de faire les uns avec les autres, et ce n'est pas facile, que dans la plupart des villes de France, il y ait la possibilité d'un véritable rayonnement culturel, ça veut dire la véritable possibilité que dans le domaine du théâtre, de la musique, de la danse, dans tous les domaines du spectacle vivant, du théâtre de rue, qu'il n'y ait pas uniquement une concentration des crédits vers la capitale, et je sais pour autant qu'elle absorbe beaucoup des crédits de l'État et des collectivités territoriales, mais que la création puisse exister partout. Je pense d'autre part qu'il n'y a pas que le Louvre, il y a aussi le palais de Tokyo. Et je voulais dire à Pippo Del Bono que je l'invite quand il veut, s'il trouve que les œuvres qui sont exposées au Louvre ne correspondent pas. On a le droit de s'écouter et de parler. Et bien justement, je suis en train de dire que le soutien à nos racines, à notre histoire, c'est quelque chose de très important, et que le soutien à la création contemporaine, c'est également quelque chose de très important, et qu'il y a de nombreux lieux pour la création contemporaine dans notre pays, notamment, puisque là on parlait de la capitale et du Louvre, juste à côté, il y a le Palais de Tokyo, qui est un endroit consacré à la pointe absolue de la création contemporaine, et je viens de décider de faire en sorte que la rénovation du Palais de Tokyo, avec tous les moyens nécessaires, soit mise en place. Et donc j'espère que cette vision-là, de l'électricité, de la préparation de l'avenir, qui est celle de la création contemporaine, vous verrez que nous réussissons à concilier, parce que c'est pour ça, et je conclurai là-dessus. Pour moi, la diversité culturelle, c'est le respect aussi bien de nos racines que de la forme la plus moderne et la plus prospective de la création, et c'est l'addition de l'un et de l'autre fait tout simplement, pour moi, la qualité de l'offre culturelle. Voilà très simplement ce que je voulais dire en réagissant quelques instants.
Vive les intérimaires pour faire tourner tout ça.
Non, vous savez très bien, c'est un autre débat. Vous savez très bien... Vous savez très bien... Et je dirais d'un mot sur ce sujet, et je vous le dis en regardant chacune et chacun d'entre vous, que la diversité culturelle, elle suppose effectivement un soutien spécifique aux artistes et techniciens du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant. Permettez-moi de vous dire très simplement que c'est ce système que je veux construire avec vous.
On va applaudir, on va applaudir. Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît, je voudrais donner la parole à madame Christine Havès. Je vous demande quand même de respecter les interlocuteurs
étrangers. La parole est à la coordination.
Est-ce que c'est un débat maintenant entre les intermittents et la politique française ou il a été invité plusieurs personnes
pour parler? La parole à la coordination. La parole est à la coordination.
C'est un débat seulement entre, la, entre les intermittents et la
France.
Quoi ?
Les gens qui sont dans la culture et qui sont en train de crever. Voilà.
Et dans l'instant, vous faites la malade.
Est-ce que la culture va au-dessus de la vie ? Vous avez des exigences culturelles. Et la vie est où ?
S'il vous plaît, je voudrais laisser parler madame Christine Havès.
Ich möchte gerne noch einmal auf Europa zurückkommen. Europa hat sich ja verändert. Und zwar auf eine für uns, für den kulturellen Aspekt, sehr drastische Weise. Wir haben 10 neue Mitgliedstaaten, die das alte kulturelle Europa verkörpern, die immer Europa waren, die von denen zumindest 8 ganz deutlich gespürt haben, was es heißt in einer Gesellschaft, wenn die kulturelle Identität bedroht ist.
Je voudrais brièvement revenir à la question de l'Europe qui a fortement changé très récemment, et cela de manière dramatique, notamment du point de vue culturel. Nous avons 10 nouveaux pays membres de l'Union européenne, qui ont toujours été européens d'ailleurs, par leur identité culturelle, dont 8 ont vécu très concrètement la vie menacée au niveau de leur identité de par un système qui s'y oppose.
Und es waren die neuen europäischen, die alten neuen europäischen Länder, die dafür gesorgt haben, mit großer Vehemenz und Kraft, dass das Thema Kultur Teil der europäischen Verfassung wird.
Et c'est les anciens pays membres de l'Union européenne qui ont fait en sorte, qui ont vraiment fait un pressing pour que l'aspect de la culture fasse partie intégrante de l'Europe, du débat européen également.
Ich weiß, dass wir gerade Deutschland und Frankreich viele Kämpfe auf europäischer Ebene nur gemeinsam bestehen konnten. Aber für uns war immer die Kultur so selbstverständlich, vor allem für Frankreich. In Deutschland ist der Konsens darüber, ob die Künstler die Gesellschaft bereichern oder nicht, immer ein bisschen in offener Diskussion. Aber wir haben nicht geglaubt, dass wir dieses kulturelle, die kulturelle Identität und die kulturelle Vielfalt zu einem Bestandteil unseres politischen Denkens machen müssen. Das haben wir sehr gerne als Anregung von den ost- und mitteleuropäischen Staaten übernommen. Und ich wünsche mir, dass diese Staaten nicht müde werden in ihrem Kampf, um Kultur als Bestandteil des Kulturraums Europa. Es ist nicht nur ein Wirtschaftsraum.
Alors je sais que nous, les Allemands et les Français, nous avons été en mesure de mener ces batailles au profit de la culture comme faisant un élément qui fait partie intégrante de la société, mais cela a réussi seulement parce que nous l'avons fait ensemble. Alors il faut dire qu'en France, il y a toujours été clair que cet alliance entre la culture et la société soit un fait, tandis qu'en Allemagne, les discussions étaient nettement plus ouvertes pour savoir s'il y avait vraiment la nécessité d'un apport culturel permanent aux activités de la société. Mais je crois que maintenant il est établi comme idée que la culture fait partie intégrante de la pensée générale et de la société. Et c'est un petit peu grâce à ces nouveaux membres, anciens membres de l'Europe, mais nouveaux membres de l'Union européenne, c'est grâce à eux que cela a pu se réaliser. Et j'espère que ces pays ne vont pas abandonner cette tentative de faire en sorte que ce lien soit toujours assuré.
Und wenn wir uns darauf verständigt haben, dass die Kultur etwas Wichtiges ist, dann werden wir viel voneinander lernen können. Viel über die Strukturen. Wir müssen viel mehr gegenseitig schauen, wie sehen die unterschiedlichen Förderungssysteme aus. Zum Beispiel bei der Filmförderung, glaube ich, ist es sehr notwendig, dass wir vergleichbare Systeme entwickeln, damit wir die Kämpfe auch nicht mehr nur bilateral führen müssen, sondern dass wir wirklich alle für ihre Kultur, aber mit einem gemeinsamen, klar definierten Ziel auf europäischer Ebene kämpfen können.
Alors, une fois obtenu un tel accord général, je crois que ce sera possible et même nécessaire d'en apprendre les uns des autres, d'en savoir un peu plus sur les systèmes des différents pays, notamment les systèmes qui permettent de faire survivre le domaine de la culture, de financer, de soutien, et les rendre ne plus que comparables. Car les luttes que nous aurons encore à mener ne seront pas bilatérales. Il faudra plutôt essayer d'avoir un objectif commun, un grand objectif commun au niveau de la culture en Europe.
Merci. Je crois que Peter Müller voulait ajouter un mot.
Ich möchte unter dem Eindruck der Debatte zwei Gedanken äußern.
Sous l'impression du débat que nous venons d'entendre, j'aimerais vous présenter deux idées.
Wir haben gehört, wie unterschiedlich die Strukturen auf der Kulturförderung in Europa sind. Ich glaube, dass es ein Ziel sein muss, die Unterschiedlichkeit dieser Strukturen zu erhalten. Und wenn wir darin übereinstimmen, dass es nicht darum gehen kann, die Kultur zu einer Ware, die ausschließlich ökonomisch betrachtet wird, zu machen, dann glaube ich, muss es unser gemeinsames Ziel auch sein, die nationalen Eigenheiten, die nationalen Besonderheiten, die Unterschiedlichkeiten der Strukturen nicht in Frage zu stellen.
Nous avons vu lors du débat à quel point les différents systèmes de soutien, de subvention, de financement du monde des arts et ces systèmes sont différents en Europe. Et il s'agit aussi de garder cette diversité-là, parce qu'il peut s'agir que, de créer un bien commercial, la culture comme une chose d'échange économique. Et en fait, la diversité culturelle doit justement être vue aussi du point de vue de la diversité de ces systèmes, qui pourront être un atout.
Und deshalb warne ich davor, allzu sehr die Forderung zu erheben, dass Kultur zunehmend europäisch definiert und europäisch finanziert werden sollte. Ich glaube, man muss schon sehr genau darüber nachdenken, welche Aufgaben im Bereich des kulturellen Austausches von der europäischen Ebene wahrgenommen werden und welche Aufgaben künftig weiter national wahrgenommen werden. Die Vorstellung, dass ein Teil der Mittel, die zurzeit national eingesetzt werden, in einen großen europäischen Fonds fließen und dann zentral von Brüssel aus in Europa verteilt werden, scheint mir keine anstrebenswerte Vorstellung. Ich würde ungern das, was wir im Agrarmarkt auf europäischer Ebene erlebt haben, im Bereich der Kultur erneut erleben.
Je mets en garde d'élever tous ceux qui élèvent l'exigence d'avoir une définition, voire un financement européen du monde de la culture. Voir quelles sont les tâches qui seraient à assurer et à accomplir au niveau national et quelles seraient alors à accorder effectivement aussi au niveau européen. Mais l'idée qu'une partie des moyens nationaux distribués à l'heure actuelle soit versée dans un fonds européen me semble fort peu alléchante. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut envisager et je voudrais surtout éviter de voir à l'avenir dans le monde de la culture ce qui est arrivé au monde de l'agriculture.
Zweiter Gedanke, und ich hoffe, dass ich dabei die Gastfreundschaft, die ich hier erfahre, nicht überstrapaziere, aber vielleicht darf ich auch als Gast etwas Unpopuläres sagen.
Alors j'ai une deuxième idée, je crois que je ne vais pas, enfin j'espère que je ne vais pas trop utiliser l'hospitalité dont il m'a été fait part, et peut-être présenter une idée un petit peu moins populaire.
Ich habe Philippe Bonneau sehr genau zugehört, als über Krankheit gesprochen hat. Ich will keine Bemerkung zur Situation in Italien machen, die kenne ich nicht. Aber ich will eine Bemerkung machen zu seiner Befürchtung, die Politik könne künftig bestimmen, was in der Kultur gut und was in der Kultur schlecht ist. Und insbesondere zu seinem Beispiel, dass es da viele Politiker gibt, die zu Aufführungen kommen, die sagen, es sei herrlich, es sei wunderbar und mit Gedanken 1000 Kilometer weg sind.
Alors, Pippo Lobono a dit, on parlait lors de son intervention de maladie, il a parlé du système en Italie et de la situation en général. Je ne connais pas la situation en Italie, donc je vais m'abstenir d'un commentaire, mais je voudrais quand même réagir par rapport à ce qu'il a dit concernant les politiques qui, de par sa crainte, pourraient à l'avenir exclusivement décider de ce qui se fait dans le monde des arts et de la culture. Et il a parlé notamment d'un exemple de personnages politiques qui se rendent à une première, qui disent oui c'est vraiment sympa, c'est bien, mais qui dans leur esprit sont à des milles ou des kilomètres de là.
Ich glaube, dass es solche Politiker gibt. Ich glaube aber, dass es viele andere Theaterbesucher gibt, denen es ganz genauso ergeht. Und ich glaube, es würde der Sache der Kultur und der Sache des Theaters dienen, wenn man dem Politiker, der das Theater besucht, unterstellt, dass er es tut, nicht um 1000 Kilometer weg zu sein, sondern um ganz nahe beim Theater zu sein. Das hat das Theater verdient, die Politiker aber auch.
Alors, je crois qu'il y a effectivement des hommes politiques tels qu'il vient de décrire, mais je crois qu'il y a aussi un grand nombre d'autres spectateurs qui vivent exactement la même situation. Donc, il faudrait peut-être aussi, du côté du théâtre, revoir un petit peu toute la structure, revoir un petit peu l'approche pour que, à l'avenir, le théâtre soit de nous beaucoup plus proche du spectateur. C'est ce que le théâtre mérite, c'est ce que les spectateurs méritent et c'est ce que les hommes politiques méritent également.
Merci, Alain Garland, vous y ajoutez un mot, et puis après je donnerai la parole à ceux qui veulent s'exprimer dans la salle.
Oui, enfin, c'est juste une toute petite chose. Les professionnels de la culture et les artistes, auparavant, dans les siècles précédents, ont construit les échanges culturels européens. Donc, puisqu'il s'agit de préserver une diversité d'organisations, il serait utile que dans les de soutien à la culture qui vont être mis en place au niveau européen, les professionnels soient associés à l'élaboration des dispositifs pour éviter toute bureaucratie et toute erreur d'organisation.
Évidemment, évidemment. Je voulais quand même, je crois, Peter Müller, vous rassurer, je ne pense pas que la vue française, c'était de créer un grand fonds européen qui se substituerait aux politiques nationales. Je crois que c'est au contraire de laisser chaque pays libre de déterminer librement sa politique culturelle sans être soumis à d'autres contraintes qui sont des contraintes d'accord international. Bon, j'ai vu qu'il y a Anne Hidalgo qui est chargée de la culture au sein du Parti Socialiste, qui réclame le micro.
Ça marche ? Oui, je voudrais d'abord vous remercier cette parole que vous m'accordez et m'inscrire dans la suite du propos de Christine Abbas, que je salue. Je crois qu'en effet, nos démocraties ont un besoin existentiel de culture et d'artistes indépendants, capables de provoquer par leur regard, par leur langage multiple, de provoquer ce que, dans un monde parfois trop rationnel et moins émotionnel, nous n'exprimons pas suffisamment. Donc on a ce besoin, et c'est un besoin vraiment qui, aujourd'hui, doit être réaffirmé dans nos démocraties. Ça concerne chacun de nos États, ça concerne l'Europe dans son ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été dit, l'Europe de la culture n'existe pas, elle est à construire. Et je crois qu'il va falloir un volontarisme politique et citoyen extrêmement fort pour arriver à nos fins, parce que les menaces sont grandes. Les menaces sont grandes, elles viennent d'abord, je crois, de l'extérieur de l'Europe, avec une politique culturelle, d'industrie culturelle extrêmement agressive, nous venant d'outre-Atlantique. On aime tous, bien sûr, cet échange avec la culture américaine, mais la façon dont il se déverse, dont il se déploie, avec une uniformisation à la clé de nos modes de pensée, de l'action.
Uniformisation, c'est aussi une maladie européenne. Mais pas seulement. C'est bizarre parce qu'on a une tendance toujours.
Non, mais je vais vous dire que j'assume le mot uniformisation. Oui, tout à fait.
Moi, je crois que les États-Unis, l'Européen, profondément aussi à ça. Et peut être également.
Je vais poursuivre et j'assume pleinement cette idée qu'il y a une uniformisation qui est une menace pour la création dans nos pays, dans nos États. Je sais bien qu'il n'existe pas aujourd'hui une culture européenne, et tant mieux, puisque cette culture est faite de la diversité des peuples et des créateurs qui composent aujourd'hui l'Europe. Mais je crois que nous devons être dans l'unanimité, vraiment dans l'unanimité européenne, dans nos échanges avec le reste du monde, pour défendre ce que nous ne pourrons pas défendre si nous ne mettons pas en place un minimum de mécanismes de protection pour éviter que le déversement de produits culturels venant d'outre-Atlantique avec cette volonté extrêmement farouche de conquête économique ne vienne tuer la création dans nos pays, parce
oui,
que c'est quand même
ça.
Non, je poursuis. Il s'agit quand même de ça. C'est une menace réelle qui est en plus amplifiée par les concentrations qui s'organisent. Et ces concentrations sont visibles, elles sont là, et c'est vrai que vous en avez parlé. Les concentrations existent dans le domaine du cinéma, dans le domaine des médias, et cela constitue des menaces pour la diversité de la création et des menaces pour le fonctionnement de nos démocraties. Donc je crois que face à cela, je me réjouis que la position aujourd'hui de l'Europe soit plutôt une position de l'unanimité pour défendre nos spécificités, et j'espère qu'elle demeurera. En tous les cas, nous sommes vraiment des farouches partisans de cette unanimité de l'Europe dans son rapport commercial, notamment à l'étranger. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a une nécessité de faire vivre effectivement la diversité des cultures, parce que l'identité des peuples, elle s'exprime aussi à travers la langue des peuples, à travers les langages des artistes, à travers tout ce qui est finalement cette richesse de l'Europe. Et pour cela, je crois que nous avons besoin d'amplifier, de construire des outils. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure sur la nécessité de proposer des outils qui permettent une meilleure circulation des œuvres et des artistes. Ça veut dire réfléchir aussi à la condition de vie et d'emploi des artistes en Europe, pour que ces échanges puissent se faire dans des conditions équitables, dans des conditions qui soient enrichissantes pour le reste de l'Europe. Et je voudrais conclure, il nous faut vraiment, sur le premier point, vraiment avoir des outils anti-concentration. Je crois qu'il faut absolument veiller à cela, sinon on ne s'en sortira pas. Et deux, des outils pour faire vivre cette diversité européenne à l'intérieur de l'Europe. Et puis, je terminerai mon propos sur un point. Vous avez parlé tout à l'heure du Louvre en disant qu'on peut finalement, c'est vrai, passer une journée entière dans un musée comme celui-ci et n'avoir finalement aucun choc culturel, aucun choc émotionnel à la sortie. C'est vrai, à une nuance près. Je pense qu'il faut être accompagné dans la découverte des œuvres, qu'il s'agisse des œuvres anciennes ou des œuvres contemporaines. Je pense que le public a besoin d'être accompagné, et je crois que là aussi, en Europe, comme chacun dans nos États, nous devons absolument miser sur la question de l'éducation artistique. Nous devons en faire un enjeu majeur, un enjeu démocratique, un enjeu social, un enjeu politique. Nous devons absolument développer à travers l'école, mais aussi en dehors de l'école. En France, nous avons des réseaux d'éducation populaire qui concernent les enfants et les adultes. Nous devons absolument faire ce pari de l'intelligence collective en misant sur une véritable politique qui mise à nouveau sur les enseignements artistiques et sur l'accompagnement des publics. Parce que pour avoir dans mon enfance visité des musées dans un cadre accompagné, je peux vous dire que ça a créé des vrais chocs et ça m'a marqué à vie. Et j'espère que cette expérience-là, elle pourra encore être vécue par d'autres enfants si on met les moyens pour que cette éducation artistique existe réellement. Je vous remercie.
Alors, je fais des choses parce que c'est vrai ce que tu dis. Parce que c'est vrai aussi que normalement, quand il se fait ce débat, je regarde parfois à la télé, je parle de l'Italie, mais peut-être je parle du monde, qu'une personne lui dit « ça c'est rouge, reste là, debout du débat à la fin, que c'est rouge ». Non, ça c'est la chose surréale du débat politique. Une personne lui dit « là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ». L'autre dit « c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ». Aucune personne, et alors je dis « mais c'est pas possible que personne dit « ah, c'est vrai ». Tu as raison, j'ai changé mon opinion. Non, impossible. Et je pense que là, il passe aussi quand il y a tous les confrères. Ça, c'est rouge. Ce pullover, c'est bleu. C'est bleu, c'est bleu. Non, c'est jaune. Non, c'est bleu. Non, c'est bleu. Alors, qu'est-ce qui signifie? Non, il y a un moment qui dit, oui, c'est vrai, parce que nous avons le mythe que le super macho, il doit défendre une idée. La culture masculine, c'est fort. Moi, j'ai peur de la personne qui devra conduire pour comprendre le Louvre. J'ai beaucoup peur, parce que moi, par exemple, j'avais un maître d'italien et de latin qui m'a fait détester Rimbaud, Dante, Pasolini. Moi, j'ai passé un choc culturel parce que Alors, un maître, il te donne la possibilité de trouver ton liberté. Mais ce maître, il te dit, là, tu dois comprendre ça, 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 ça. Oh, là, tu dois comprendre ça, ça, ça. C'est un peu dangereux, le maître. Tu sais, ça, c'est un peu dangereux, je pense. Et aussi, je pense qu'il y a une chose que tu as dit avant qui est intéressante. Que la catégorie chic, beaucoup de fois, sont devenus pas seulement loin de la réalité, les politiciens, les organisateurs, aussi les artistes, je pense, que nous sommes devenus en catégorie chic. Que nous avons perdu le sens réel de la vie. Parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu limite à dire « Oh, moi je suis un danseur, oui d'accord, moi je suis un poète. » Je déteste un peu la condition que tu te sentes un artiste. Moi, je pense que toutes les personnes qui sont ici sont des artistes. Tout. Quelqu'un, si, si, moi je suis sûr. Seulement que la condition de la vie, la condition des choses qui te passent, ils t'ont réprimé, ils t'ont achevé. J'ai un peu peur de l'artiste génial. Il est perdu, il aime la nuit, il est bon ça. Parce qu'à la fin, tu vas créer une catégorie sociale dangereuse. Alors l'agent, tu ne parles plus de l'agent, tu parles de notre monde qui existe dans une boîte. Il existe, c'est plus pas réel, concret. L'agent concret, il n'aime pas aller au théâtre. L'agent, il se réveille à la matin, il fait des travaux normaux. Nous avons oublié, les artistes, l'agent, pour faire une catégorie un peu spéciale. Là, c'est une autre chose aussi, c'est vrai.
Merci pour Alors, Jacques Ravine.
D'abord, je voudrais dire un petit mot sur le budget, puisque tout à l'heure, tu nous as invité. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais il y a quelques années, le budget pour la culture de l'Europe, pour 13 pays, on est maintenant 25, était identique pour 5 ans au budget annuel que consacrait l'Europe à encourager la culture du tabac et à corriger les difficultés médicales que le fumer créait. Je pense que c'était assez symbolique de la façon dont était traitée la culture. Maintenant, je voudrais dire deux ou trois choses. La première, on est contemporain d'un bouger fondamental dans le domaine de l'art. L'art est en train de se réinventer. En quelque sorte, même si c'est d'une manière inquiète ou d'une manière brutale, ce qu'il cherche à inventer, c'est la figure d'un monde sans figure. Parce qu'on parle beaucoup de l'Europe et de sa culture passée, mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une prospective à partir de ce qui existe? Ça ne nous convient pas beaucoup. Ou est-ce que c'est un projet pour ce que nous souhaitons? C'est cette question-là qui est mobilisatrice. L'autre, c'est le statu quo. Et le statu quo, sur différents problèmes, sans sous-estimer les choses importantes qui sont faites, c'est quand même pas très réjouissant. Donc on a un bouger, on a les repères esthétiques sont déstabilisés et il faut en tenir compte. Autrement, c'est vrai qu'il y a une perte de contact et qui est préoccupante. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est par rapport au monde du travail. Et ça, ça vaut pour tous les pays d'Europe. On dit toujours, les gens ne viennent pas là, les gens ne viennent pas là, faites du prêt-à-porter, ils viendront. Ça, c'est une illusion totale. Le problème, c'est la façon dont sont traités à l'intérieur de l'entreprise les hommes et les femmes qui travaillent. Où est utilisé seulement leur savoir, c'est le cas actuellement. Et ça ne va pas loin du point de vue de la vie, de la butine plutôt. Où ils sont autorisés et on leur donne les moyens de mettre à l'œuvre commune leur faculté d'étonnement, leur faculté d'initiative, c'est-à-dire on les autorise à penser, y compris l'avenir de leur travail et sa conception, et à ce moment-là, on a des partenaires de la création artistique. Autrement, ils n'ont pas soif parce qu'ils sont mutilés. Ça, c'est la deuxième chose, mais je pense qu'il est capital et que c'est la grande question des sociétés, qu'il faut appeler par leur nom, capitalistes européennes, où l'homme et la femme conquièrent enfin leur dimension de vie, où on les laisse dans l'état précarisé, se répandant sur le papier buvard comme de l'ordre, qui mutile leur capacité d'approche et de rencontre des actes. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est sur l'exception culturelle. J'en suis un partisan depuis le début. Ça parle quand même à ceux qui en ont un peu défini le concept avec les États-Unis de la culture au moment du GATT. Mais il s'est produit en 99 un événement, c'est qu'on a remplacé exception culturelle par diversité culturelle. Les ministres sont rentrés à Strasbourg dans une réunion sur l'exception et en sont sortis sur la diversité. C'est même peu de temps après M. Messier, qui actuellement est mis en examen, qui a déclaré à New York la mort de l'exception culturelle et qui a crié « Vive la diversité culturelle !» Je me limite à cet énoncé, mais ça pose quand même question. Car l'exception culturelle, c'est pas seulement la reconnaissance du pluralisme des nations, des régions, des individualités, c'est aussi la libération des œuvres et des pratiques artistiques, de l'argent. Moi, la phrase qui me semble la plus importante, c'est celle qui disait en 87, un peuple qui abandonne son imaginaire aux grandes affaires se condamne à des libertés très claires. Nous y sommes, et l'Europe ne se construira que quand elle aura le courage d'affronter, non pas la fatalité, il n'y a pas de fatale fatalité, mais le courage d'affronter cette question et de lui apporter des solutions. C'est valable pour les très anciens et pour les 12 nouveaux qui, ayant subi un régime qui ne leur félicitait pas du point de vue étatique, la culture, encore qu'est-ce qu'il y a des Allemands qui ont connu des théâtres à Berlin des deux côtés et qui ont été prodigieux et dont on a aujourd'hui, je voyais ce soir, le spectacle de Castorf, c'est un immense homme de théâtre. Mais il va bien falloir se coltiner cette question. Alors je voulais dire ces questions-là. Et vous voyez, là, comment dirais-je, vous avez là un petit texte très court. Une poète.
Jacques, parle devant le micro. Non, mais parle devant le micro.
J'ai là un petit texte un peu très court d'une poétesse russe, Marina Ivanovna Tsvetaeva. Et elle écrit « Le matériau des chaussures, le cuir, peut être estimé, il est fini. Le matériau d'une œuvre d'art, l'esprit, ne peut être estimé, il est infini. Il n'existe pas de chaussures pour toujours. Chaque verre de sa peau est donné une fois pour toutes. » Des chaussures incomprises, ça n'existe pas, tandis que des verres, ô combien. Je trouve qu'elle touche du doigt les choses. Elle touche du doigt les choses. Et enfin, comme le représentant du CNDA, je voudrais dire qu'il est temps d'inventer une politique culturelle qui aide l'ensemble des pays. Et il y a des pays qui souffrent beaucoup de ce point de vue. Il est temps d'en inventer, comment dirais-je, une. Mais, oui, qu'est-ce que tout à l'heure?
Là, j'ai dit qu'il fallait inventer une politique culturelle et qu'il n'y avait pas une culture européenne.
D'accord, ça, je suis d'accord avec toi, mais tu as dit autre chose aussi, dont je ne me souviens pas, je m'excuse.
Auprès
de vous, mais c'est une grande question, je m'excuse, ça arrive. Je pourrais quand même bien vous le dire, mon âge. Ah non, mais c'est embêtant.
Jacques, je suis de toute façon obligé, j'étais obligé de te couper la parole parce que là, je dois conclure.
Ah,
si,
ça y est, j'ai trouvé. Attends, ça y est. Il a vu une chose, pour définir la culture, il faut y associer et respecter dans leur dignité les artistes. Mais c'est une question fondamentale. On est allés tous les deux, tu te rappelles, à Birmingham. J'avais posé en Assemblée générale la question, y a-t-il un artiste dans la salle? Il y avait un artiste anglais et on définissait la culture. On ne peut pas sans eux. Et on ne peut pas dans l'univers actuel que l'on connaît. Il y a eu tout à l'heure des interpellations, des interjections. Mais pour comprendre la douleur de ces hommes et de ces femmes, parce qu'ils ont besoin de vivre, y compris pour leur travail, c'est-à-dire pour nous, pour la vie. Et ça, c'est une question fondamentale. Je voulais la...
concerne les engagements. En ce qui concerne les engagements politiques, je crois qu'il y a un mot qui n'a pas été utilisé, et puis il faudrait arrêter d'éviter de l'oublier, et puis d'accepter de le prendre et de le mettre sur la table. En ce qui concerne la responsabilité politique de la future convention sur la diversité culturelle, et ça mettrait un terme aux alternoiements sémantiques entre diversité et exception, c'est de deux choses l'une. Ou effectivement une convention internationale sera un outil juridique contraignant. Ou alors, tout ceci naît vite, est une coquille qui sera vide de sens, et ça rajoutera à un texte derrière la déclaration des droits de l'homme, point final. La question posée, c'est y a-t-il un homme politique qui ira effectivement au charbon suffisamment loin pour faire que la prédominance des lois du marché et du commerce devra céder le pas devant effectivement la reconnaissance à part égale de ce que représente effectivement l'identité artistique et culturelle. La question posée, c'est que pour l'instant, au niveau international, comme d'ailleurs en Europe, ça reste tout de même les lois du commerce qui dirigent effectivement et qui pilotent les échanges. Si nous n'avons à opposer aux lois du commerce qu'une définition de la diversité culturelle, eh bien cette diversité culturelle devra toujours négocier, si je puis dire, des aménagements. Et on sait que ces aménagements, on aura tout à y perdre. Donc la question posée, c'est oui ou non. Est-ce que dans les positions tant du gouvernement français que de l'Europe, et ça s'adresse à tous nos amis effectivement européens, nous aurons cette volonté de dire à l'OMC et de dire à tous ceux qui voudraient effectivement s'y opposer, en ce qui concerne les enjeux de culture, les lois du commerce ne peuvent pas se prévaloir d'une subordination. Cette question, pour l'instant, et y compris dans les propos du chef de l'État, n'ont pas été abordées. Et je crois que de ce point de vue-là, effectivement, nous pouvons continuer d'être inquiets. Dernière chose, je crois que la question, je pense à nos amis suédois et quelque part à nos amis allemands, qui ont une tradition dans l'activité théâtrale de la troupe permanente. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il était évoqué, non pas une incompréhension, mais en tout cas, l'affirmation que nous ne vivions pas les mêmes expériences depuis un certain nombre d'années. En France, cette réalité de la troupe permanente, elle a disparu depuis très longtemps. On y a substitué effectivement une dimension différente qui était celle de la gestion de l'intermittence. Il s'éprouve que cette intermittence n'a rien à voir avec effectivement ce qu'aujourd'hui on arrive à en faire, à savoir un outil de destruction de la personnalité. Mais par contre, il est assez intéressant de noter qu'aujourd'hui, en Suède, et semble-t-il en Allemagne, il y a quelque part une disparition de cette permanence de l'emploi. Et il y a un lien et une corrélation directe entre le rapport du public et l'existence de la troupe permanente. Nos camarades suédois avaient fait l'observation très claire que lors des théâtres, lorsqu'effectivement la notion de la permanence artistique disparaissait, les rapports au public se modifiaient. Et que de ce point de vue-là, eh bien, la place de l'artiste dans la société avait effectivement une définition bien particulière. Enfin, la dernière chose, c'est que protéger la culture et ceux qui la font vivre, c'est pas la mettre dans des bocaux. En France, on a une tradition. Elle remonte à plus de 50 ans. C'est que justement, au lieu d'essayer de se protéger en se fermant sur nos frontières, nous avons toujours eu une tradition d'ouverture, toujours une tradition d'accueil, et où on a eu une conception qui était de dire que pour faire valoir la diversité culturelle, c'était de faire vivre effectivement cette diversité au travers de la création et de la production. Ça a été vrai pour le cinéma à la sortie de la guerre, c'est une dimension vraie en ce qui concerne le spectacle vivant. Ce qui veut dire que l'important et les enjeux que nous avons aujourd'hui, c'est de ne pas essayer de rationaliser les investissements financiers, c'est effectivement aujourd'hui de faire vivre ceux dont la mission, quelque part, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que cette mission, c'est de faire vivre l'imaginaire, de développer effectivement des sensations. Cet enjeu-là, si nous ne le traitons pas dans des conditions effectivement modernes, c'est dans des conditions où on accepte de se remettre en cause sur un certain nombre de modes d'organisation du spectacle, eh bien ça, nous risquons de passer au travers, surtout de passer à côté, un enjeu important. Et l'Europe ne pourra pas se construire en matière de politique culturelle si au travers de nos pays, nous n'avons pas effectivement une volonté, déjà, premièrement, de traiter la question.
Merci Michel. Comme une partie de la question, ça tombe bien, s'adressait à Madame Christine Havès, je lui donne la parole et c'est elle qui va conclure le débat.
Es ist schwer genug, weil die Anregungen, die ausgegangen sind, so vielfältig sind, dass ich jetzt versuche, auf einen Nenner zurückzukommen. Es gibt ein Einvernehmen unter allen europäischen Kulturministern, dass die Kultur in ihrer Vielfalt ein schützenswertes Gut darstellt. Und dieses Gut muss eine Ausnahme sein. Also ich darf keinerlei Liberalisierungsangebot geben in den GATS-WTO-Verhandlungen. Darüber ist Einvernehmen. Es gibt eine UNESCO-Konvention. Auch dort wird Einvernehmen herzustellen sein. Wir werden sehr schnell unter allen, die sich mit Kultur befassen, für die klar ist, dass die Kultur und die Vielfalt der Kulturen etwas Schützenswertes sind, wir werden alle Resolutionen dieser Welt verfassen können darüber. Was wir nicht können, und das ist unser großes Problem, und deshalb können wir gar nicht genügend Debatten dieser Art auch machen, an allen möglichen Orten dieser Welt. Wir werden in der allerletzten Runde nicht am Tisch sitzen. Keiner wird in der allerletzten Runde am Tisch sitzen, an dem verhandelt wird über diese Weltwirtschaftsfragen. Und wir müssen so laut über diese Sperre, kein Liberalisierungsangebot, reden. Wir müssen sogar Kampagnen dazu machen. Wir müssen klar machen, öffentlich klar machen, was verloren ginge, wenn wir dieses Gut nicht schützen würden. Und wir hoffen, dass wir damit auch die Ohren derjenigen erreichen, die in der letzten Verhandlungsrunde um 5 Uhr morgens hoffentlich nicht die Kultur in den Verhandlungstopf werfen, als etwas, womit man sich etwas anderes wieder erkauft.
Dankeschön.
Évidemment, il est fort difficile de conclure le débat en fait le résumé. Il y a eu des suggestions très diverses. Je crois qu'il y a un commun accord, malgré tout cela, parmi les ministres de la culture en Europe, pour dire que la culture et la diversité culturelle constituent des biens à protéger, à tout prix. Il ne faut laisser aucune ouverture, aucune libéralisation dans notre entrevue, aussi pour ce qui est des négociations du GATT de l'OMC. Il y a aussi une convention de l'UNESCO en la matière. Un petit peu partout, je crois que l'idée est acquise, partout dans le monde d'ailleurs, que la culture et la diversité des cultures constituent des biens absolus. Mais, lors du dernier tour des négociations de l'OMC, n'oublions pas, personne de nous ne sera autour de la table. Donc à nous de mener campagne, de dire clairement, de crier haut et fort, ce qui serait perdu si jamais il devait y avoir cette ouverture que nous craignons tous. Et ainsi, il faut le dire suffisamment, de manière suffisamment claire pour qu'à 5h du matin, lorsque les responsables de négociation décideront pour finir, mais il faut faire en sorte que cette idée que nous avons défendue soit encore clairement à l'esprit.
Merci Madame May. Je crois que la position qui a été exprimée par la ministre allemande, c'est exactement, je crois, aussi la position du gouvernement français. Et à la rentrée, nous allons devoir nous battre pour que cette convention pour la diversité culturelle à l'UNESCO ait un caractère contraignant, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'elle puisse avoir un caractère de contrainte par rapport à d'autres accords commerciaux internationaux. Je voudrais vous remercier d'être venus nombreux à ce débat, remercier les responsables du Festival d'Avignon qui nous ont permis de l'organiser, remercier aussi nos amis allemands qui sont présents, Peter Müller, et j'espère revenir un jour à Sarrebruck parce que votre accueil était formidable, Christine Havès, Renaud Denieux de Vabre, Luc Bondy et nos amis de la coalition pour la diversité culturelle. Et vous donnez rendez-vous pour ceux qui s'intéressent à ces questions en septembre parce que nous ferons à l'UNESCO une conférence de presse pour commencer à sensibiliser l'opinion, les journalistes sur cette convention pour la diversité culturelle. Merci et bon spectacle. Et...